L'été, on décapitalise.
C'est la question du cap.
Majuscule. Manifeste. Empire. Marchandise. Position. Culture. Pouvoir. De voix. Cible. Direction. Ville.
Valeur. Tête.
Siège.
Direction.
Cap.
Colonie.
Empire.
Conducteur.
Capitaine.
Trois fois.
Hiérarchie.
Caporal.
Pouvoir.
Position.
Cible.
Caput.
Cap.
Cap.
L'été, on décapitalise. À contre-cap, décapiter le cap du capital. Capituler le cap de la capitale.
Cap ou pas cap?
L'été, on décapitalise.
Siège. Ville. Empire.
Car il y a la règle et il y a l'exception. Il y a la culture qui est de la règle. Il y a l'exception qui est de l'art. Tous disent la règle. Cigarette, ordinateur, t-shirt, télévision, tourisme, guerre. Personne ne dit l'exception. Cela ne se dit pas. Cela s'écrit. Flaubert, Dostoïevski. Cela se compose. Gershwin, Mozart. Cela se peint. Cézanne, Vermeer. Cela s'enregistre. Antonioni, Vigo. Où cela se vit, et c'est alors l'art de vivre. Srebrenica, Mostar, Sarajevo. Il est de la règle que vouloir la mort de l'exception. Il sera donc de la règle de l'Europe de la culture d'organiser la mort de l'art de vivre qui fleurit encore à nos pieds.
Empire. Pouvoir.
Manifeste.
Propriété. Valeur. Culture. Économie. Œuvre. Art.
Siège.
Valeur.
Empire.
À contre-cap, pour décapiter le cap du capital. Capituler le cap de la capitale.
Que pourrait-il advenir d'une telle émission? Rien.
Ce que nous voudrions, c'est incapaciter le cap de la décapitation.
Il y a quelque chose à faire en art qui n'est pas de l'ordre du discours manifeste, qui n'est probablement pas de l'ordre de la discursivité. Et alors, ça serait le nom qu'on pourrait donner à ça, c'est la sensibilité, disons. Entretenir le sens du sensible ou quelque chose comme ça, en tant qu'il n'est pas couvert par le discours, ni relevable parfaitement dans quelque chose qui pourrait se dire. Fondamentalement, plus je vieillis, plus je pense que l'humanité tient à quelque chose qui ne se dit pas. Elle tient à dire, bien sûr, mais elle tient aussi à quelque chose qui se dit pas. Et oublier ça, pas faire de place à ça, au silence par exemple, c'est finalement peut-être ce qui, au bout du compte, finit par nous empêcher de vraiment parler.
En présence de Pierre Damien Huyghe,
professeur à l'Université Paris 1,
Panthéon-Sorbonne.
Il est notamment l'auteur de l'ouvrage « Le cinéma avant-après » aux éditions de l'Incidence Éditeur, Moderne sans modernité aux éditions Ligne et Le différent esthétique aux éditions Circé.
Dans Le différent esthétique, un ouvrage que vous avez publié, on peut lire ceci. L'œuvre ne lit pas, elle espace, elle distend un lien existant, elle le met à l'épreuve. Cette trouée contribue à la liberté des liens. Disons que la doxa voudrait que l'art favorise le lien social, non ?
C'est une doxa tout à fait actuelle, effectivement, mais je suis revenu récemment sur ce propos du différent esthétique, pas pour le contester, mais au contraire, pour le soutenir le plus que je pouvais. Je pense qu'effectivement, on est dans une phase, dans un moment dans lequel, par exemple, pour motiver l'existence de formation, comme on dit, artistique, on légitime le projet par l'idée que l'art peut servir à former du lien social. Je pense que cette idée très très discutable et le mot lien lui-même est très ambigu parce que on peut l'interpréter comme signifiant une façon d'être attaché. Bien sûr, les attachements sont aussi positifs, qu'on est, je suis attaché à quelqu'un, c'est pas rien. Mais la capacité de ne pas être absorbé dans un lien, de ne pas être absorbé dans une attache, c'est quelque chose de très important. Le nom de ça, c'est émancipation, ou si on veut aussi, on peut dire liberté. Donc l'assignation de l'art à la tâche de soit de faire, soit même de former du lien social me semble être finalement quelque chose qui finit par aller à l'encontre de ses intentions les plus généreuses.
Donc ce serait un art qui nous délierait.
Que l'art nous délie, il peut nous détacher de quelque chose, nous concentrer sur autre chose que ce à quoi nous étions attachés. Et donc, dans cette idée-là, il détend, pour dire les choses de cette manière.
Et il met en crise.
Et il ouvre une critique. Il y a un mot auquel, pour ce qui me concerne, je reste, comment dire, alors je vais dire attaché. Il y a un mot en tout cas qui m'intéresse, qui me semble qu'il ne faut pas laisser tomber, c'est celui de distanciation. Les positions qui étaient celles de gens comme Brecht, même si le concept lui-même est éventuellement formulé postérieurement à la phase des années 30, c'est pas le problème. L'idée est déjà là, de toute façon, que dans les périodes où monte en puissance quelque chose qui s'appellera le totalitarisme, l'art, s'il a une raison d'être, c'est effectivement celle de distancier à l'égard de ce qu'il lie à un moment donné de façon ferme, radicale, une communauté.
Dans un autre ouvrage, Moderne, sa modernité, vous différenciez aperçu et figure, qui sont, disons, deux manières de faire de l'art qui engage un rapport différent à la politique.
Oui, le concept de figure, en fait, c'est un vieux concept qui a une tradition rhétorique, qui trouve sa source dans la rhétorique. On peut dire figurer, donner figure, c'est l'une des pressions qui, de longue date, pèsent sur ce qu'on peut appeler l'art. Hein, figurer un monde. En ce sens-là, on pourrait aussi entendre l'expression que moi-même je viens d'utiliser, donner une certaine allure, une certaine figure. Mais en réalité, quand on regarde un peu dans l'histoire le sort de cette notion, de ce concept de figure, on comprend que dans les meilleurs traités de rhétorique, il a toujours été dit que la bonne figure est celle qui passe parmi nous sans que son opération soit aperçue elle-même comme telle. Et c'est pourquoi moi j'avais tenté dans le livre que vous venez de citer de suggérer comme tâche, pour reprendre un mot de Benjamin, le fait de faire apercevoir ce qu'on est en train de faire. Et là on retrouve l'idée brechtienne, hein, que ce qu'on est en train d'opérer soit aperçu dans son opération même. Et faire apercevoir l'œuvre, c'est peut-être ça qui serait le fait artistique spécifique.
C'est le travail de la technique ?
Oui, c'est un travail de la technique. Je pense que c'est toujours un travail particulier de la technique, qu'à un moment donné... l'humanité, ou en fait il faudrait que je dise à chaque moment donné de son histoire, l'humanité pour s'exprimer, pour se faire savoir, pour se communiquer un certain nombre de choses, passe par capacités techniques qui ne sont pas les mêmes d'une phase à l'autre, d'un moment donné à un autre. Et ces capacités techniques, elles peuvent être employées, elles le sont la plupart du temps, pour dire quelque chose. On peut employer un appareil photo pour dire, une caméra pour dire, des appareils comme celui avec lequel nous sommes en train de travailler pour faire entendre quelque chose. Mais ce qui est caractéristique de la situation dans laquelle nous sommes en train de parler, c'est qu'une partie de sa technicité va disparaître de l'expérience des auditeurs. Et peut-être que le travail artistique consiste précisément à, comment dire, aller à l'encontre de cette disparition de la technique dans son emploi. Donc la faire éprouver, la faire entendre, la faire voir, tous ces éléments qui ne sont pas immédiatement politiques, parce qu'ils ne sont pas immédiatement expressifs, sont en fait très, très importants pour nous, pour que nous soyons au fait de ce qui nous permet, par ailleurs, de parler entre nous.
Mais qui peuvent être aussi politiques dans la mesure où ils nous permettent de nous rendre compte que nous sommes faits par la technique.
Je dirais qu'ils sont indirectement politiques, ou mieux peut-être, qui finalement permettent à la politique de se nourrir de ce qui fait, à un moment donné, la condition technique de l'humanité. De se nourrir de ça. D'être par conséquent renouvelé, mais sans que le propos, si j'ose dire, artistique, soit lui-même dans son contenu politique. Je tiens depuis longtemps à une phrase de Merleau-Ponty qui, en substance, dit que ce qui fait parler l'humanité, ce qui fait accéder l'humanité à une parole qu'on pourrait dire être vraiment une parole, c'est-à-dire pas simplement un emploi des ressources communicatives pour faire passer des messages, mais une parole au sens où quand je parle véritablement, quand nous parlons véritablement, il se passe quelque chose qui est de l'ordre d'un travail des conditions mêmes de l'expression et l'expressivité. Et Merleau-Ponty disait dans une phrase donc magnifique, à laquelle je répète que je tiens assez radicalement, que ce qui nous fait parler, c'est un certain vide en nous à combler par des mots. Un certain vide. Et ce vide, je ne sais pas si je dirais qu'il faut le produire, mais en tout cas, il faut l'entretenir. Il faut que nous puissions entretenir, parce que si Merleau-Ponty a raison, c'est la condition de toute parole. Il faut que nous puissions éprouver à certains moments le manque de mots ou le manque de langage. Et ça, je pense que le travail artistique se lie à cette expérience maintenue, disons, du vide. Il ne s'agit pas de nous remplir de signification, mais au contraire de nous laisser un peu quoi. Comme on dit, être quoi, ne pas savoir quoi dire, se trouver dans le manque de langage.
Cette ouverture quasiment vertigineuse, non ? C'est proprement insupportable pour la politique. La politique a besoin d'un programme. Et en somme, vraiment, l'art ne peut... rien pour la politique, si ce n'est toujours, non, la mettre en crise.
Oui, on peut dire que le vide, et ce vide dont je viens de parler, est insupportable pour la politique. On peut dire aussi, c'est l'une des plus vieilles définitions qu'on ait de la politique, celle d'Aristote, l'homme est un animal politique, c'est-à-dire en substance, hein, je vais vite dans la lecture du texte, mais c'est-à-dire parlant, et que la politique tient à la parole. Et donc, elle tient à ce que des énoncés soient produits, pas seulement échangés entre nous, mais discutés entre nous, que certains soient refusés, que d'autres soient au contraire acceptés ou supportés. Donc, oui, la politique tient à la parole. Et d'une certaine manière, l'humanité tient, animal politique, à ce que ça parle en son sein. Mais ça ne veut pas dire que toute l'humanité est réfugiée là-dedans. Il peut aussi, c'est toute la difficulté, être essentiel pour nous que demeure de l'expérience qui n'est pas politique, qui est à côté d'elle. La position classique en art, on pourrait dire les choses comme ça, la position classique en art, qui est une position qui revient régulièrement dans l'histoire, non pas seulement l'histoire de l'art, mais l'histoire de l'idée d'art elle-même. La position classique consiste, comme le disaient très bien les théoriciens de la chose, par exemple de l'Académie royale de peinture, mettons à la fin du XVIIe siècle, à instruire les esprits. Cette formule est très claire, à les instruire en les divertissant. C'est-à-dire, il y a un concept fort de divertissement qui consiste à penser que l'opération d'instruction n'est pas aperçue comme telle, hein, pour revenir à quelque chose que je disais tout à l'heure. C'est une position classique en art, instruire. Instruire sans que l'instruction apparaisse pour ce qu'elle est, à savoir une instruction. Donc finalement, la position classique en art, ça consiste à soutenir l'idée que, par le biais de quelque chose qui n'est pas une parole, c'est éprouvé comme une parole. Et à cette position classique, qui est régulièrement de retour parmi nous, c'est la définition même de classique, hein, que ce soit régulièrement de retour parmi nous, on peut opposer, il s'est à mon avis toujours opposé, depuis la tragédie grecque elle-même, sinon une autre idée de l'art, en tout cas une autre partie, une autre part de l'art, qui n'est pas de l'ordre de l'instruction, qui est donc d'un autre ordre, qui n'est pas l'équivalent d'une rhétorique, en tout cas.
Le divertissement aujourd'hui, l'instruction par le divertissement aujourd'hui, c'est le régime dominant.
Absolument, ça c'est l'une de mes thèses. Alors je pense que nous assistons, nous sommes pris d'une certaine mesure dans un retour classique auquel, pour nous rendre les choses un peu plus difficiles, nous ne donnons pas son nom. C'est-à-dire, évidemment, personne ne dira aujourd'hui que son travail en art procède d'une position ou d'une théorie classique. Dans cette affaire, en fait, je dis quelque chose de, enfin, je pense d'assez simple conceptuellement, et pourtant de très très difficile à entendre, et qui est l'espèce de démêlé que j'ai avec l'expression, le concept, si c'en est un, de postmoderne. Et je fais remarquer dans Moderne sans modernité quelque chose d'étrange. Pourquoi on dit volontiers postmoderne et pas postclassique ? Voilà. Pourquoi y a tant de résistance à passer, pourquoi pas, par ce langage-là. Mais en fait, qu'est-ce que dit postmoderne au juste ? Est-ce qu'il y a d'autres possibilités, si postmoderne est un mot qui a quelque consistance, que finalement légitimer un retour à des positions classiques en art ? Alors c'est un retour à des positions classiques en art, passant, parce que l'époque est ce qu'elle est, par des techniques qui, elles, ne sont pas classiques, qui, elles, sont évidemment récentes, qui sont des techniques du temps. Donc ça n'a pas l'air d'être classique, mais ça l'est peut-être foncièrement.
Je lisais dernièrement La Révolution moléculaire, qui a été rééditée au Prix Ordinaire de Félix Guattari, et j'ai constaté à quel point il a fait la guerre au sens, à quel point la signifiance était pour lui, non, un espace d'émancipation, donc, possible. Et tout à l'heure, vous disiez sur la question du lien que l'œuvre délie et qu'elle ne permet de nous défaire d'un certain nombre d'attachements, que finalement vous mainteniez non l'idée d'un art émancipateur. Non, est-ce que cette idée d'un art qui émancipe non est toujours valable? Parce que finalement, ça renvoie à l'idée d'une promesse, non?
Oui, pas deux ou trois choses peut-être là-dessus. La première, c'est peut-être pas l'art qui émancipe. Il faudrait peut-être dire les choses un peu différemment. Il faudrait peut-être dire il y a de l'émancipation possible à partir du moment où il y a de l'art. Ce qui ne veut pas dire que le projet, si le mot convient, il ne convient pas, mais que le projet artistique serait d'émanciper en définissant un programme émancipateur. Mais il y a de l'émancipation pour autant qu'il y a de l'art, ça reste quand même une phrase qui est peut-être possible. Deuxième chose, c'est intéressant si on peut relire Guattari dans le sens que vous venez de dire. Aujourd'hui, alors je n'ai pas pensé au mot assignifiance, mais il m'arrive de dire et d'écrire. C'est assez difficile à soutenir parce que vous allez voir, l'expression est évidemment paradoxale. Enfin, c'est tellement évident qu'elle est paradoxale. Mais qu'en fait, il y a quelque chose d'essentiel et qui est l'insignifiant, voilà, que j'appelle l'insignifiant. Finalement, dans une photographie, cette photographie tient à quelque chose à quoi le nom d'art ou le mot d'art pourrait convenir, c'est qu'il y a en elle quelque chose qui est insignifiant, au sens où ça excède, où ça ne fait pas partie. Et de la signification recherchée et éventuellement même du signifiable. On peut peut-être pas signifier ce qui compte pour nous dans telle photographie qu'on a élue comme finalement convenant à notre part foncière de naïveté. Quoi. On peut peut-être pas le signifier, et ça n'est peut-être pas de l'ordre d'un signifiant.
Par contre, c'est sans doute de l'ordre d'un communicable.
Alors, c'est de l'ordre d'un communicable, si on entend effectivement par communicable, je sais que le mot est chez Kant, et il est chez Benjamin aussi, si on entend par communicable le fait que on tente de dire, ce qui ne veut pas dire qu'on réussit à dire, hein. Alors qu'on tente de dire quelque chose qu'on n'arrive pas à dire, ça je crois qu'en effet c'est l'un des fondamentaux de l'expérience humaine, qu'on tente de dire quelque chose qu'on ne réussit pas à dire, mais cette phrase-là on ne peut la soutenir qu'à partir du moment où on admet qu'il y a quelque chose dont le statut c'est pas, parce que j'entends les réactions éventuelles de Jacques Rancière à ce genre de choses, qui serait pas quelque chose qui est de l'ordre de l'indicible, qui n'est pas posé ni éprouvé comme tel. Ça cherche à se dire, mais et donc ça, selon une belle traduction d'un texte de Benjamin, ça fait embrayer, ça attend l'embrayage de discours, mais ce discours, il n'épuisera pas l'expérience elle-même, il l'épuisera pas.
À Marseille, il y a toute cette année 2013, dont Marseille est capitale de la culture. Comment se fait-il, si on vient de dresser non une scène d'une tension entre art et politique, que à un moment donné, en ce qui concerne la culture, tout semble aller bien? C'est que la culture, c'est le régime du sens, le régime de la signifiance.
Ben, je crois qu'il y aurait à faire sur le mot culture un travail critique. Là aussi, nous avons des paradoxes devant nous, si j'ose dire, sur cette question. Alors, moi, je pense depuis longtemps que l'usage du mot culture au singulier est quelque chose qui nous empêche de penser les enjeux dans cette affaire. C'est-à-dire que culture, ça veut dire, selon l'étymologie même du mot, hein, cultiver, jardiner, c'est-à-dire finalement trier. Je peux aussi rappeler au passage que un des sens de critique, un des sens premiers, c'est tamiser, hein, c'est-à-dire aussi séparer, faire le tri. Hein. La culture, ça consisterait, pour rester au niveau de la métaphore, à faire le tri entre dans ce qui pousse, entre les bonnes et les mauvaises poussées, celles qu'on va garder et celles qu'on va pas garder. Donc la culture est critique par essence, et elle est partagée au sens où il y a quelque chose qui est retenu comme valable, pour autant que quelque chose est rejeté comme non valable. Oublier le caractère critique de la culture, le caractère essentiellement discutable et instable de la culture, c'est quelque chose qui fait mal à l'idée même de culture. Alors pourquoi on simplifie, voilà. Pourquoi on parle de la culture en général? Ben parce que, ce faisant, on donne à quelque chose qui est dominant, ou plutôt, on permet par là que quelque chose qui est en réalité une domination ne soit pas présenté comme tel, mais comme un absolu. La culture comme un absolu patrimonial qui d'ailleurs... à ce compte-là, peut mourir de sa belle mort, dans la mesure où une culture qui ne se renouvellerait pas, une culture qui ne trouverait pas en son sein des éléments, des poussées, hein, pour en contester la pertinence, serait, à mon avis, une culture vouée à la majesté grandiloquente et à la disparition, comme les espèces humaines monumentales, trop grosses pour pouvoir continuer à vivre.
Mais cette culture qui trie, cette culture qui sélectionne, elle sélectionne sur quel fond? Le fond des œuvres?
D'abord, elle sélectionne, la culture ne peut sélectionner et vivre qu'à partir du moment où il y a de quoi sélectionner, c'est-à-dire des poussées diverses. S'il n'y a qu'une seule sorte de poussée, si par exemple les techniques de l'époque sont dominées dans leur capacité à donner quelque chose, à produire quelque chose, si elles sont par exemple économisées de telle manière que ce qui sort d'elles est toujours semblable. Une seule sorte de produit, une seule sorte de production.
Monoculture.
Monoculture, exactement. Et ben, il n'y a plus de culture. La condition de la culture, c'est qu'il soit possible, un mode de capacité technique étant donné, de faire diverger ses capacités, ses productions. Et là, l'art, si on n'oublie pas que l'une de ses étymologies, c'est ars ou techné, ou quelque chose, l'art peut faire quelque chose au sens où peut-être l'une de ses tâches qui n'est pas langagière, c'est de montrer qu'avec une technique donnée, on peut faire autre chose que ce qui se fait selon l'emploi dominant de la technique à ce moment-là.
On tient donc une distinction entre art et culture.
Il y a une distinction, certainement, entre art et culture. L'art est pour moi une des conditions de vivacité possible de la culture. Mais ce n'est pas la culture. Il y a un travail de culture, après, qui n'est pas secondaire, mais qui est second. Il y a un travail de culture à partir du moment où il y a de l'art, à partir du moment où il y a des productions techniques divergentes qui va consister finalement à faire jouer l'instance du préférable. Voilà. On préfère garder ceci. Et ça n'est pas... ce qu'on garde n'est jamais le tout d'une époque.
C'est une décision politique.
C'est pas... Est-ce que c'est une décision politique
Ou est-ce que c'est une décision des amateurs d'art, ouais, une décision de ceux qui vont se mettre à tenter d'imiter, de reproduire.
Oui, c'est peut-être dire que c'est une décision politique, c'est une décision politisable en tout cas. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la décision. Je crois que ça n'a pas toujours été une des tâches, disons, des États en tant qu'ils sont les instances dans lesquelles se concrétise. Comment qu'on parle des concrétions, hein, se concrétise la politique, effectivement, que de garder ceci en mémoire plutôt que cela.
Le rôle des musées, par exemple.
Le rôle des musées, par exemple, oui. Le rôle des musées, par exemple, qui n'est pas... sauf qu'il faut... Je ne sais pas si je suis clair dans mon analyse, mais les musées ne sont pas l'endroit où on va trouver le tout de la culture. On va trouver la culture sanctionnée, politiquement sanctionnée. Et c'est toujours affaire de remise en discussion. Et ça, c'est un travail, on peut dire, des gens qui se vouent non pas à la politique, mais disons à la culture que de remettre en discussion, si possible. Ne serait-ce que pour assurer la vivacité de la culture, de remettre en discussion les choix validés, les sanctions opérées à un moment ou à un autre. Donc, par exemple, qu'un musée se réorganise n'est pas une opération en soi contestable de mon point de vue. Il y a quelque chose dans notre discussion qui n'est pas apparu et qui est quand même présent, je pense, dans ce que je pense, c'est que je dirais, pour aller vite, l'art a deux adversaires au sens adversus, c'est-à-dire le regard tourné vers, hein, c'est fait face. Ce qu'on peut faire d'artistique fait face, disons, à deux adversités, celle de la politique, donc on a beaucoup parlé de ça pour l'instant, que l'art ne se confond pas avec le langage politique, etc. Mais il y a une autre adversité pour l'art qui est l'économie, qui est l'économie de la technique ou des techniques. L'économie, l'un des plus vieux sens de ce mot, c'est disposition. La façon de disposer des techniques et la façon de les disposer, c'est-à-dire par exemple de les organiser pour qu'elles soient productives. Je pense que le travail artistique qui m'intéresse fait face aussi à l'organisation économique des techniques, à la façon d'en disposer sur un mode économique qui se résout presque toujours à les employer en l'occurrence, si on pense au monde d'aujourd'hui, pour en tirer profit, pour en profiter, pour en faire profit, et que le rapport substantiel de l'art à la technique n'est pas celui-là. C'est pas un rapport économique, c'est pas un rapport pour profiter de la technique, c'est pas pour l'employer, c'est pas pour qu'elle rende quelque chose. Et ça, ça a une dimension de méthode. C'est-à-dire, prenons l'exemple, on pourrait prendre celui de la photographie, on peut prendre celui du cinéma, on pourrait prendre historiquement celui de la peinture. Quand il se manifeste quelque chose... à quoi finalement nous pouvons proposer le nom d'art ? Il y a méthodiquement, dans l'œuvre, disons, quelque chose qui n'est pas économique, quelque chose qui perturbe les méthodes les mieux installées pour faire produire. Voilà. Bon, je vais prendre un exemple pour moi fameux. La façon de peindre de Paul Klee n'est pas académique, mais on pourrait citer avant lui d'autres, celle de celle de Géricault ne l'était pas, n'était pas académique, on pourrait dire aussi elle n'était pas économique. Il ne travaillait pas comme selon les règles qui seraient celles, par exemple, d'une bonne ingénierie. Hein, il est assise, en effet, sur quelque chose comme une science du travail. Voilà. Bon. Donc l'art n'est pas, ne procède pas de ce type de position ou de ce type de science. Donc il y a cette adversité économique. Mais aujourd'hui, il y a aussi une difficulté qui est celle d'accepter le principe que les techniques avec lesquelles nous vivons, les techniques qui, dans une certaine mesure, sont le fond de nos vies aujourd'hui, sont des techniques qui peuvent être mises en divergence méthodiquement. Et s'il n'y a pas ça, il y a effectivement l'uniformité. L'industrie culturelle, c'est une façon de disposer des techniques d'enregistrement de façon économique et d'imposer des modes de production dans le cinéma, par exemple, dans la façon de faire circuler, de diffuser les objets, etc. Quelque chose de l'art ne peut exister, et la culture être vive que dans la mesure où il y a aussi la possibilité, pour certains d'entre nous en tout cas, la force même peut-être pour certains d'entre nous, de faire face aux dispositions économiques des techniques avec lesquelles ils travaillent.
Merci Pierre Dominique.
L'été, on décapitalise.
C'est la question du cap.